Aujourd'hui, je vais vous lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Comme c'est très long, je le ferai en plusieurs fois. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge, qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voici la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes, et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas de ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf des boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités, et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme j'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. »
Alors j'ai dessiné.
Il regarda attentivement, puis...
« Non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. »
Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence.
« Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. »
Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédents.
« Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. »
Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais.
« Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. »
Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge.
« C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?»«
Pourquoi ?»«
Parce que chez moi, c'est tout petit. »«
Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. »
Il pencha la tête vers le dessin.
« Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. »
Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.
Chapitre 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas un avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda, « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ?
Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. »
J'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria,
« Comment ? Tu es tombé du ciel ?»«
Oui, » fis-je modestement.
« Ah ça, c'est drôle !»
Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta,
« Alors toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu ? »
J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence. Et j'interrogeai brusquement, « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin ?» Et s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'ai pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif.
Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison.
« Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. » La proposition parut choquer le petit prince.
« L'attacher ? Quelle drôle d'idée !
Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire.
« Mais où veux-tu qu'il aille ?
N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement.
« Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. » Et avec un peu de mélancolie peut-être, il ajouta. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin.
Chapitre 4. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine est à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres, qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronaute découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent, quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors seulement, elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, « J'ai vu une maison de 100 000 francs ». Alors elle s'écrie, « Comme c'est joli !» Ainsi, si vous leur dites, « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton »,
Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. »
Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant.
Mais si vous leur dites « La planète d'où ils venaient est l'astéroïde B612 », alors elles seront convaincues. Elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète, à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. » Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaye ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas un ami. Et puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert à l'âge de 6 ans. J'essayerai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblant possible. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va, l'autre ne ressemble plus. Je me trompe aussi un peu sur la taille. Ici le petit prince est trop grand, là il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume, alors je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes, j'ai dû vieillir. Chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète. Sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que le 3e jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce au mouton, car brusquement, le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave. « C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent des arbustes ?»« Oui, c'est vrai. »«
Ah, je suis content. » Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta. « Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. » Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même... il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit.
C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent des petits baobabs?
Il me répondit. Ben voyons. Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais si les graines sont invisibles, elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines, et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils le font éclater.
C'est une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. « S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. » Mais dès qu'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables, que pour une fois je fais exception à ma réserve. Je dis « Enfant, faites attention aux baobabs ». C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'il frôlait depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demandez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs? La réponse est bien simple.
J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné des baobabs, j'étais animée par le sentiment de l'urgence. Chapitre 6. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ces détails nouveaux le quatrième jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » « Mais il faut attendre. »
« Attendre quoi ?»«
Attendre que le soleil se couche. » Tu as eu l'air très surpris d'abord, puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais. Tu sais, quand on est triste, on aime les couchers de soleil. Les jours des 43 fois, tu étais donc tellement triste? Mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. « Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs ?»«
Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. »«
Même les fleurs qui ont des épines ?»«
Oui, même les fleurs qui ont des épines. »«
Alors les épines, à quoi servent-elles » ?»«
Je ne le savais pas. »
J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait à m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. « Les épines, à quoi servent-elles » Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. « Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs.
Oh »
Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. « Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. » Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs ?»«
Mais non, je ne crois rien, j'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. »
Il me regarda stupéfait.
« De choses sérieuses ?»
Il me voyait mon marteau à la main, les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid.
« Tu parles comme les grandes personnes. »
Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta.
« Tu confonds tout, tu mélanges tout. »
Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil.
« Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. »
« Un quoi ?»«
Un champignon. »
Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. « Il y a des milliers d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des milliers d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Ce n'est pas de sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète ?» Et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait? Ce n'est pas si important, ça?
Il rougit, puis il reprit.
Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Ce n'est pas important, ça? Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la Terre, un petit prince inconsolé. Je le pris dans mes bras, je le berçais, je lui disais « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à tout mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. » Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Chapitre 8. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples, ornées d'un simple rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'un de ses os. Le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait en un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voilà qu'un matin, justement à l'heure du lever de soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait tant travaillé avec tant de précision, dit en bâillant « Oh, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle !»«
N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. »
Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas modeste, mais elle était si émouvante.
« C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, » avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?»
Le petit prince tout confus avait été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince
« Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. »«
Il n'y a pas de tigres sur ma planète, » avait objecté le petit prince. « Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe. »«
Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur.
« Pardonnez-moi. »«
Je ne crains rien, les tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas auparavant ?»«
Horreur des courants d'air ? Ce n'est pas de chance pour une plante, » avait remarqué le petit prince. « Cette fleur est bien compliquée. »
Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous, c'est mal installé. Là d'où je viens,
elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines et elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort.
Cependant, j'allais le chercher, mais vous me parliez.
Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, » me confia-t-il un jour. « Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder, les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eut dû m'attendrir. » Il me confia encore. « Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. » Elle m'embaumait, m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir les mots. Chapitre 9. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. C'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait « on ne sait jamais », il ramena aussi également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement, régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent un tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie des dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois sa fleur et se prépara à la mettre à l'habit sous un globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu !» dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu !» répéta-t-il. La fleur toussa. Ce n'était pas à cause de son rhume.
« J'étais sotte !» lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon. » « Tâche d'être heureux !»
Il fut surpris par l'absence de reproches. Il restait là, tout déconcerté. Le globe à l'air, il n'y comprenait pas cette douceur calme.
« Mais oui, je t'aime !» lui dit la fleur. « Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. »
« Mais le vent ?»«
Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. »
Mais les bêtes,
il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles, ni si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta. « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Voilà, la suite, demain.